France Inter, le 7-9. Intervenez.
La ministre du Travail, Muriel Pénicaud, est l'invitée de France Inter, 01 45 24 7000 pour toutes vos questions. Fabien, bonjour, bienvenue.
Oui, bonjour, bonjour Madame la Ministre.
Bonjour aussi.
Votre gouvernement souhaite accentuer, renforcer le contrôle des chômeurs, une idée qui entretient quand même l'idée répandue que les chômeurs seraient majoritairement des profiteurs, des fraudeurs. Donc déjà, on pourrait s'attarder un petit peu là-dessus, surtout quand une étude, vous l'avez rappelé, prouve l'inverse au sein de Pôle emploi. Les sanctions envisagées si un demandeur d'emploi refuse deux offres raisonnables d'emploi, déjà, faudrait nous expliquer sur quels critères ces sanctions, finalement, vont revenir à sanctionner des demandeurs d'emploi qui sont, rappelons-le, dans une situation de précarité professionnelle, sociale, souvent financière. Donc c'est une sorte de double peine. Et moi je me demande pourquoi votre gouvernement, plutôt que s'acharner une nouvelle fois à stigmatiser et sanctionner potentiellement les chômeurs, ne les aide pas plus massivement, y compris au sein de l'organisation même de Pôle emploi, à retrouver un travail.
Merci Fabien pour cette question. Muriel Pénicaud vous répond.
Alors comme je dis tout à l'heure, je partage votre point de vue, la très grande majorité des demandeurs d'emploi, ils n'ont qu'un but, c'est trouver un emploi. Donc ça, il n'y a pas de sujet là-dessus. Après, dans tous les domaines, il y a une minorité, une petite minorité de fraudeurs qui nuit d'ailleurs à l'image des autres et qui crée un sentiment d'injustice chez les demandeurs d'emploi, chez les salariés, chez les artisans. Donc il est normal, comme pour la sécurité sociale, ce sont quand même les cotisations que tout le monde paye et c'est aussi de l'argent public. Donc il est normal qu'il y ait un contrôle. En revanche, là où je vous suis d'ailleurs volontiers, c'est que mon but avec Pôle emploi, c'est que, y compris le contrôle, permette de voir très vite, il y a des gens qui sont en situation, comme vous le dites, de précarité ou de doute ou de découragement et qui du coup recherchent plus vraiment activement un emploi parce qu'ils pensent qu'ils vont pas y arriver. Et cela, il faut les accompagner plus fort que les autres. Tout le monde n'est pas égal devant le chômage. Si on a une compétence, une qualification qui est sur le métier, ça va beaucoup plus vite de retrouver un emploi, c'est beaucoup plus facile. Pour certains, c'est très difficile, donc il faut les accompagner beaucoup plus vite, beaucoup plus tôt. Et donc ça va permettre, plus en amont, dès le début, à Pôle emploi, d'avoir une action plus forte sur ceux qui en ont le plus besoin.
Muriel Pénicaud, pour ce que dit l'auditeur, la deuxième partie de sa question, sur « je suis chômeur, je suis chômeuse en l'occurrence, je refuse deux offres d'emploi, qu'est-ce qui se passe pour moi ?»
Alors, moi j'ai demandé aux partenaires sociaux qui gèrent l'assurance chômage, donc patronat et syndicats, de réfléchir, et ils doivent dans la première quinzaine de février me faire leurs propositions sur l'ensemble du sujet assurance chômage, démissionnaires, indépendants, etc. Mais aussi sur ce sujet-là.
Votre avis à vous, parce que c'était une promesse, une déclaration du candidat Macron, mais donc vous en êtes où? Au-delà de la discussion des partenaires sociaux.
C'est pas au-delà, c'est le processus démocratique. On discute avec les partenaires sociaux. Je pense que justement, il y a une énorme différence entre le contrôle qui va permettre de repérer ceux qu'il faut accompagner beaucoup plus, parce que eux, c'est une question d'accompagnement, ils ont besoin de plus de moyens pour trouver un emploi, et il faut au contraire les encourager, et la petite minorité de fraudeurs, et les fraudeurs, moi je pense que tous les Français, ils sont d'accord que les fraudeurs, il n'y a pas de raison qu'ils payent pour eux, et donc pour cela, j'attends des partenaires sociaux qui nous disent quelles sanctions ils veulent le mettre, et effectivement les critères pour être sûr qu'on ne se trompe pas entre les fraudeurs.
Et donc le critère de deux refus reste...
Non, ça, on va discuter les critères, mais moi j'attends leurs propositions, et puis après on va en discuter.
Raphaël sur Twitter dit la chose suivante, Madame Pénicaud ment dans Interactive, 60% des 14% des chômeurs sanctionnés ne touchaient déjà plus aucune allocation. Christelle, sur l'application France Inter, Madame la Ministre oublie de dire que sur les 14% de fraudeurs, seulement 60% sont rémunérés par Pôle emploi. Il faut être exhaustif quand on donne une information.
Ah, je peux donner tout le rapport entier, il y a aussi plein d'autres enseignements dans ce rapport. Je pense que,
Mais vous contestez ces chiffres ou pas? C'est-à-dire d'une minorité de minorité de minorité.
Mon sujet, c'est pas... Comment dire? Le débat, les chômeurs, c'est un débat de fou. Ça n'a aucun sens de dire que s'il y en a qui pensent que la majorité des chômeurs ne cherchent pas un travail, ils se trompent complètement. Voilà,
c'est ce que les auditeurs vous disent.
Oui,
ça.
Mais je suis d'accord avec ça, c'est absurde.
Après, mais c'est sur les 60% des 14%, la minorité de la minorité.
C'est un contrôle juste sur 250 000 personnes. Moi, je ne sais pas le nombre de fraudeurs. On verra bien. J'allais dire, ce n'est pas un sujet budgétaire, c'est un sujet de justice, d'équité. Par contre, l'essentiel des efforts de Pôle emploi, il doit permettre d'accompagner. Et encore une fois, le fait d'avoir une discussion plus tôt. Parce qu'aujourd'hui, souvent, la formation, on la propose qu'au bout de 6 mois. Alors, c'est ça qui va permettre de trouver un emploi. Il faut être beaucoup plus en amont. Et par contre, pour ceux qui, derrière, ne sont là que pour profiter du système, il n'y a pas de raison qu'ils y restent.
Allez, on retourne au standard. Bonjour, Marc.
Bonjour.
Bienvenue.
Merci. Bonjour Madame Pénicaud. Tous les deux ont bénéficié de mesures adoptées par votre majorité. Donc je voulais vous en féliciter. Moi j'ai reçu ma retraite de janvier. Je vais perdre un peu plus de 50 euros par mois. Ce qui fait, selon mes calculs, 620 euros dans l'année. Vous, vous allez bénéficier de la suppression de l'ISF et vous allez gagner 62 000 euros. Or, moi, c'est 600 euros, j'en ai besoin, et vous, c'est 62 000 euros, vous n'en avez pas besoin. Est-ce que vous trouvez ça juste, Madame Pénicaud ?
Merci pour cette question. Marc Muriel Pénicaud vous répond. J'ajoute juste qu'il y a énormément de questions sur ces 62 000 euros, que ce soit au standard, sur l'application, sur Twitter, etc. Muriel Pénicaud. Alors,
je vais d'abord vous répondre à titre personnel et après, évidemment, sur la politique du gouvernement. À titre personnel, j'ai payé 49 000 euros d'ISF. L'année dernière, en 2017. L'esprit, vous avez compris, de la réforme de l'ISF, je sais que je ne vous convaincrai peut-être pas sur ce sujet, qui est important de comprendre, c'est d'encourager l'investissement productif. Donc, cette même somme, je vais l'investir dans des entreprises à travers un fonds, parce que, en tant que ministre, je n'ai pas le droit d'investir directement dans une entreprise, dans un fonds qui soutient l'économie sociale et solidaire, et qui permet donc à des entreprises, à des associations de créer des emplois, d'être inclusives. Voilà, donc c'est la logique de cette
vous réforme. Suivez la logique, vous n'avez pas gardé l'argent pour vous, entre guillemets, vous,
ça pas de sens,
vous l'investissez.
Voilà. Et par ailleurs, voilà, moi, comme vous le savez, j'ai bien gagné ma vie. J'utilise aussi cet argent pour d'autres choses. Je fais du mécénat avec des jeunes artistes engagés sur le plan social, en art social. Je fais d'autres choses. Mais ça, c'est mon usage privé. Mais comme il y a beaucoup de questions sur mon usage privé, je tiens à lire
pour moi l'argent. Léa Salamé.
Ça vous choque, par exemple, que Libération ait enquêté sur combien vous allez gagner par cette réforme, les 62 000 euros. Non, vous trouvez ça normal?
À partir du moment où
vous dites on fustige encore les riches.
Non, pour moi, ce n'est pas le sujet. Quand on accepte d'être ministre, on est une personne publique. Il est prévu que l'ensemble de nos revenus, jusqu'au moindre centime, et où les places et comment soient sur la place publique, c'est une question de démocratie. Moi, je m'y plie sans problème. Donc, voilà, ça, ce n'est pas le sujet. Alors, après, sur le fond de l'ensemble de ce qui est mené par le gouvernement, je crois que là, on est au mois de janvier 2018. Et d'abord, c'est important de rappeler que sur la feuille de paye du mois de janvier, tous les salariés, je sais que vous êtes retraité, monsieur, j'y viendrai, mais tous les salariés, ils vont avoir une augmentation sur la feuille de paye par la baisse des cotisations sociales, puisqu'il y a une partie en janvier, une partie en octobre. Au total, sur l'année, ça va être 132 euros au niveau du SMIC, 263 l'année prochaine, par ce double effet. Il y a la prime d'activité augmentée aussi, la prime d'allocation vieillesse aussi, d'allocation handicapée.
L'auditeur, il s'en fiche un peu parce qu'il est retraité.
Pour les retraités les plus modestes, eux, ne payent pas
plus.
Impactés par ces réformes. Il y a un certain niveau de retraite, oui. C'est vrai que on demande une solidarité, j'allais dire, envers les actifs, notamment les jeunes, les demandeurs d'emploi, les femmes seules qui ont les plus bas niveaux de salaire. Et on veut, et ça c'est important que le travail paye, je veux dire qu'on rémunère le travail plus, c'est des grandes échelles, et donc je pense que ça fait du sens qu'aujourd'hui, nos concitoyens vont pouvoir, sur la feuille de paye, ils vont voir leur feuille de paye augmenter en janvier.
On retourne au standard, bonjour Cécile.
Bonjour, je voudrais revenir sur la question du pôle emploi de tout à l'heure. Je voulais savoir comment vous allez s'il va y avoir des réorganisations prévues au pôle emploi. Parce que moi, personnellement, j'ai été au chômage en 2011. Et déjà, les deux offres qu'on m'a proposées, elles étaient complètement en aucun rapport avec ce que moi je faisais. Donc forcément, je ne les ai pas suivies. J'ai pas été convoquée une seule fois. On m'a pas du tout aidée. Et de ce que je sais, c'est que souvent, il y a une personne pour, par exemple, 200 ou 300 chômeurs. Du coup, comment vous arrivez déjà pas à accompagner les gens? Comment vous allez faire pour les contrôler? Vous voyez ce que je veux dire?
Mais parfaitement, merci Cécile pour cette question. Muriel Pénicaud.
Alors, en ce qui concerne Pôle emploi, il y a 54 000 personnes qui travaillent à Pôle emploi. Mais il y a, comme je disais, 9% de chômage, 9,4, ce qui fait 2,7 millions personnes. Et en fait, ce qui est en train de faire Pôle emploi, qui me paraît très bien, et je les encourage dans cette voie, c'est distinguer. Parce qu'il y a des gens qui ont une qualification, qui peuvent retrouver un emploi assez vite, ils n'ont pas besoin du même accompagnement. D'autres, parce que soit ils vivent dans une zones géographiques rurales ou urbaines où il y a très peu d'emplois et qui sont pas mobiles, ou parce qu'ils n'ont pas de qualification, ou parce qu'ils n'ont pas travaillé depuis longtemps, et donc retrouver comment le chemin du travail, les codes du travail, c'est pas évident. Ils ont besoin de beaucoup plus d'accompagnement, et comme vous le disiez, madame, ils ont besoin d'accompagnement vite. C'est-à-dire qu'il faut pas attendre un an qu'ils soient chômeurs longue durée. Il faut tout de suite les aider à avoir des outils pour pouvoir trouver un travail, surtout maintenant que la croissance repart. Donc l'idée, Pôle emploi est en train de travailler sur beaucoup d'innovations pour automatiser un certain nombre de tâches grâce au numérique qui vont permettre de libérer du temps des gens et dissocier. Il y a des personnes qui ont besoin de très peu d'accompagnement en fait, ils ont juste besoin de savoir où sont les offres d'emploi, d'être mises en relation et ils se débrouillent. Et d'autres qui ont besoin de beaucoup plus d'accompagnement et très vite, et ça va dans le sens que vous dites. Donc c'est ça qu'on va faire chez Pôle emploi.
Une question Twitter rapide, Eric Jazz vous demande à propos de Las Vegas, où en est l'enquête vous concernant, madame Pénicaud?
Alors il n'y a pas d'enquête me concernant, il y a une enquête concernant Business France. Je rappelle que c'est moi qui ai déclenché cet audit. Assez longtemps maintenant. Et en ce qui me concerne, il n'y a absolument rien de neuf depuis 8 mois.
Donc vous êtes sereine face au travail de la justice.
Je suis sereine parce que j'ai tout à fait confiance dans la justice et que je connais les faits.
Léa Salamé.
Sur l'apprentissage, qui va être un de vos sujets chauds de cette rentrée, les régions sont pas contentes. Les régions ont claqué la porte des négociations. Elles vous accusent, Hervé Morin notamment, de vouloir privatiser l'apprentissage en le confiant au MEDEF. Vous allez faire quoi pour qu'il revienne sur la table des négociations? À la table
Muriel
des négociations.
Pénico.
Aujourd'hui, en France, il y a 400 000 apprentis. C'est à peu près 7% des jeunes qui ont la chance, je dis bien la chance, de bénéficier de l'apprentissage. Pourquoi je dis la chance? Parce que c'est vraiment une voie d'excellence. C'est un des rares domaines où on voit autant de gens qui vivent, dont le métier c'est une passion. Et ça, je pense que ça a beaucoup de valeur. Parce que le travail, ça peut pas être juste une peine. Ça doit être aussi quelque chose de passionnant.
Ça faudra essayer de convaincre Frédéric Bédé plus tard.
C'est pour ça que je dis ça. c'est moi qui lui pose une question là.
Ouais. C'est à venir. Mais sur les régions.
Alors, aujourd'hui, l'apprentissage, il est bloqué 7%. Tous les pays qui ont vaincu le chômage de masse des jeunes, ils ont 15, 20, 30% d'apprentissage. Moi, je ne peux pas me résigner à ce qu'il y ait la situation actuelle. Plus d'un million de jeunes, 1 300 000 jeunes, qui sont ni en formation, ni en apprentissage, ni en emploi, qui sont nulle part et qui n'ont pas d'espoir, pas de perspective pour le
futur. Madame la ministre, c'est la faute des régions. C'est la faute des régions qui gèrent mal.
C'est l'ensemble du système est beaucoup trop verrouillé. Il y a des sujets de code du travail, de statut de rémunération. Savez-vous que les apprentissages, on peut démarrer qu'entre septembre et décembre. Alors quand une entreprise et un jeune se rencontrent en janvier, il faut attendre septembre. Je peux vous dire que c'est fichu.
Qu'est-ce que vous leur dites pour qu'elles reviennent à la table des négociations?
Des sujets de financement. La taxe d'apprentissage aujourd'hui, il y a des régions qui poussent l'apprentissage. C'est dans leurs compétences, et d'autres qui n'utilisent même pas l'argent qu'ils ont pour le faire, où on va du simple à 5, de 1 à 5 euros, de 5 fois le prix pour la même formation en cuisine.
Mais donc, vous leur dites revenez aux régions.
Je dis aux régions, nous sommes co-responsables avec les entreprises et avec les partenaires sociaux de l'avenir de nos jeunes. Et donc, quitter la table de concertation, c'est pas une solution. On n'a pas le droit de penser juste à qui aura le pouvoir sur la taxe d'apprentissage au moment où on a 1 300 000 jeunes. Mais quand je discute avec les régions une par une, elles sont souvent assez d'accord. Donc moi, j'ai confiance qu'on va rediscuter. Mais encore une fois, on ne fait pas cette réforme pour l'État, ni pour les régions. On les fait pour les jeunes et pour les entreprises. Et donc, c'est ça que tout le monde doit avoir en tête.
Il est 8h56. Restez avec nous jusqu'à 9h, Madame la Ministre.